Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église, grâce et vérité. Jésus promet à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par notre Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
Comment ça va dans votre marche avec Jésus? Comment ça va dans votre cœur? Dans votre relation avec Dieu? Dans votre relation avec les proches? Et vous savez, la vie chrétienne, c'est toute une aventure. On va commencer avec la première image. Excellent! On va commencer par parler d'histoire. Dans les films de Walt Disney, quand il y a un personnage vedette, que ce soit un dessin animé ou un film avec des personnes là, humaines, puis qui est en danger dans une situation précaire puis dangereuse, puis que là, il y a un dénouement, on est assis confortablement dans notre chaise, nos enfants peuvent être là, parce que comment ça va se terminer? Bien, hein? Qu'est-ce qui va arriver? Une fin heureuse, même s'il y a une situation désespérée. Hey, c'est un film de Walt Disney, on connaît la fin de l'histoire. Un dénouement heureux, héroïque. Une fin grandiose, magistrale, avec de la bonne musique. Puis on peut dire que ça arrive presque à 100% pour les films de Walt Disney World. Sinon, ce ne sera pas du Walt Disney. Et on peut dire que Hollywood, hein, l'industrie en général du cinéma, ne donne pas sa place. À moins que ce soit un drame ou un film qui est lourd, la plupart du temps, il y a un scénario qui est fait sur mesure. On peut facilement, hein, des fois on connaît, on n'a pas le temps d'écouter la fin du film, là, mais on sait que on sait le gros de la fin parce qu'il faut que ça finisse bien. D'où l'expression, on dit c'est arrangé avec le gars des vues. Dans tous ces beaux films, aussi, on peut dire, on connaît la fin de l'histoire. Et dans certaines histoires bibliques, celles-là qui sont bien réelles, hein, ce n'est pas de la fiction, ils finissent bien aussi ces histoires-là. Quand vous lisez ou quand vous avez lu la première fois, moi, je n'avais jamais lu ça de ma vie, à l'âge de 22 ans, l'histoire de David. Quand je l'ai lu la première fois, je ne savais pas ce qui allait arriver. Mais savez-vous quoi? Je n'étais pas trop inquiet pour David. Si l'histoire était là dans la Bible, puis qu'il se présentait devant Goliath, je ne pouvais pas m'imaginer que David allait mourir, puis que tout le monde allait pleurer, puis qu'on allait l'enterrer, puis ça allait être fini. Donc, qu'est-ce qu'on s'attendait pour David? Il allait gagner. On connaît maintenant la fin de l'histoire parce qu'on connaît cette histoire biblique-là, mais même avant, on savait que ça allait bien terminer. Quand Moïse est poursuivi par les Égyptiens, par Pharaon, puis qu'ils s'en vont sur le bord de la mer Rouge, est-ce qu'on a peur? Est-ce qu'on se dit, non, c'est la catastrophe, c'est la fin du peuple d'Israël? Non, on n'a pas peur. On sait que ça va bien se passer parce qu'on connaît la fin de l'histoire. Ce matin, on va considérer une histoire aussi. Ça, c'est une histoire pour moi. Si j'avais à choisir une dizaine ou cinq passages bibliques que j'aime le plus lire, que quand je le lis, là, mon cœur est transporté, mon cœur, là, mon cœur, il voudrait être là. Hein. Tu sais, il y a tellement de situations bibliques qu'on dit, « Hey, moi, si j'avais pu, là, c'est pas en notre capacité, mais d'être là, présent, puis de le vivre, bien, moi, le passage qu'on va lire dans Luc 24, qui implique les disciples sur le chemin d'Emmaüs, c'est cette histoire-là. Ils étaient deux et ils se dirigeaient vers Emmaüs, qui est à 11 kilomètres de Jérusalem. Et le moment est vraiment important parce que c'est le troisième jour après la résurrection. Puis Jésus, qu'est-ce qu'il avait dit à ses disciples? Qu'il avait dit et répété qu'il allait ressusciter quand? Le troisième jour. Mais le troisième jour, au matin, whoop, les disciples, les onze, ils ont entendu des choses, mais ils ne savent pas. Puis là, c'est la fin de la troisième journée. Les disciples d'Emmaüs, le soleil baisse, la journée est terminée, puis déjà la fin de la troisième journée. Donc, ils sont un peu décontenancés, ils sont déboussolés. Ils ne connaissent pas la fin de l'histoire, eux autres, au moment où ils vivent. On lit le récit des disciples d'Emmaüs, puis on connaît la fin de l'histoire. Mais eux, au moment de vivre ces événements-là, ils ne connaissaient pas la fin de l'histoire. Comme ils ne connaissaient pas, ils ne savaient pas à l'avance ce qui allait arriver, ils doutaient. Ils luttaient. Ils étaient troublés, ils étaient tourmentés dans leur être intérieur, tout comme nous, on l'est dans nos vies, dans notre marche avec le Seigneur. Savez-vous, pour les grands enjeux de votre vie chrétienne, quelle va être la fin de l'histoire? Oui, ça va être quoi la fin de l'histoire? Excellent! Donc, notre destination éternelle, on la sait. Puis on peut se réjouir. Mais quand on pense dans vos grands combats que vous avez présentement, soit dans le couple, envers vos enfants, envers vos proches, situation de maladie, situation de combat pour maintenir un témoignage, pour lutter, pour faire avancer l'œuvre de Dieu, est-ce que vous connaissez la suite, la fin? Non, hein? Est-ce que vous connaissez la fin de l'histoire? Vous avez lu dans un livre, là, dans un an, il va arriver ça pour vous. Et si on a des enjeux, s'il y a des choses qui nous tiennent tellement à cœur, c'est là que la déception vient. Si on se fout de tout, puis on n'a pas de fardeau, puis on dit, moi, je m'en vais au ciel, puis tout ce qui est sur la terre, « Seigneur, fais ce que tu veux, tu sais, je ne veux pas prendre de fardeau, je ne veux pas m'engager. » Bien là, il y a moins de combats. Nous ne connaissons pas la fin de l'histoire comme eux. Et on va lire ce récit. Prenez vos Bibles, on va lire le passage et on va revenir sur certains versets. On va commencer par lire Luc 24. Peut-être que certains sont un petit peu moins familiers. Donc, on va prendre le temps de lire. Luc 24, les versets 13 à 32. Et moi, je l'ai lu beaucoup dernièrement, mais à chaque fois que je lis, j'ai toujours ce même plaisir. « Et voici ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 70 stades. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. » Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant? » Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? » Jésus répond, « Mais quoi? » Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il était vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? » Auriez-vous aimé ça être là aussi? Wow! On veut revenir sur quelques versets qu'on a vus. Donc, c'est le troisième jour, premier jour de la semaine. Le matin, les femmes sont allés au tombeau, mais les apôtres ne les ont pas crus. Hein? Il est dit dans les évangiles qu'ils prirent ces paroles pour des rêveries. Hein? Ils pensaient, non, c'est des... Ils ont mal vu, ils se trompent, c'est des... Verset 17, il est dit que quand Jésus leur a demandé, c'est quoi qui arrive, racontez-moi ça, l'air attristé, hein? Le poids de la déception profonde. Ici, là, c'était pas que le Canadien venait de se faire battre par les Rangers qui étaient éliminés, puis t'as l'air attristé, là. C'était pas ce genre de déception-là. C'était beaucoup plus profond que ça. C'était beaucoup plus grand. L'air attristé. Ils ont mis toute leur confiance depuis 3 ans ou un petit peu moins. Ils ont cru en lui, ils ont pris position pour lui, ils en ont parlé à leur famille, ils ont mis leur confiance en Jésus qui était le Messie. Il y a une chose qui vient de Dieu, c'est l'envoyé, c'est le Messie, Dieu sur terre, Emmanuel. On croit en toi, Jésus. Verset 21, ça dit, nous espérions, hein? On croyait de tout cœur, on avait confiance que ce serait lui, mais déjà, hein, le troisième jour est arrivé, puis il ne s'est rien produit. Imaginez ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils vivaient à ce moment-là dans leur cœur. Ils ne connaissaient pas la fin de l'histoire. Déception profonde, puis un sentiment d'abandon incroyable. En plus de ça, les femmes, ils sont venus puis ils leur ont dit des affaires. Ils ont dit que on a vu, hein? On a vu des anges. Des anges nous ont parlé. Hey, j'imagine les deux disciples d'Emmaüs dire, on va-tu se garder une petite gêne, là? On a assez de la misère à croire à Jésus que si on était certain. Si vous nous dites que des anges ont apparu puis qui vous ont parlé, là, regarde, on a autre chose à croire, là. C'est un grand défi pour eux. Verset 24, hein, il dit, « Mais lui, ils ne l'ont pas vu. » C'était trop beau pour être vrai. J- Jésus, on croyait en lui, on croyait qu'il était le Christ, le Messie. Mais là, écoute, il est trop tard. Ça fait plus que 3 jours, là, le soleil se couche. Leur foi était mise à rude épreuve, puis leur cœur est en train de défaillir. Et Jésus s'adresse à eux en disant, « Hommes dont le cœur est lent à croire. » On croit avec notre cœur. C'est notre cœur qui met sa confiance en Dieu. Et là, Jésus leur dit, « Hey, c'est dur pour votre cœur. » Verset 32, « Quand c'est dur pour le cœur aussi, c'est le cœur qui répond. » Quelle belle expression, hein, quand je lis cette phrase-là, j'ai un frisson dans le dos. « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? » Jésus leur a fait un privilège incroyable de se révéler à eux quand ils ont pris le pain. Mais pour moi, le miracle le plus grand, c'est quand Jésus, il fait quoi? Il disparaît. En disparaissant, il est en train de répondre aux besoins de leur cœur, de leur dire, « Je suis qui, moi? Je suis Jésus. Je suis vivant. Je suis ressuscité. J'ai le pouvoir sur la matière. J'ai le pouvoir sur la vie à un tel point que je peux vous apparaître comme ça, ouvrir vos yeux et disparaître. » La parole vivante rend ce verset 32 par « N'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait? » Ça veut dire qu'ils disaient un à l'autre, on a vécu une expérience incroyable. Jésus était là, il était avec nous. Puis il est disparu en plus. C'est rare qu'on dise que c'est extraordinaire que quelqu'un disparaisse devant nous, mais là, ça l'était. Le cœur a reçu une réponse grandiose et parfaite. Combien Jésus a fait du bien à leur cœur pour les fortifier. Vous savez, dans nos vies, il y a aussi l'attente du troisième jour. Il y a l'attente de l'annonce de la résurrection de Jésus. C'est le troisième jour, c'est l'annonce, c'est le moment où ça se produit. Mais il y a aussi l'attente, l'intervalle de temps. Et on peut faire un parallèle avec ce qu'on vit. Parfois, notre troisième jour, à nous, il y a des choses qui sont annoncées, il y a des promesses que Dieu a faites à notre cœur, qui nous a touchés, puis qui a dit qu'elle allait répondre pour telle personne qu'on aime, pour telle situation, qu'elle allait intervenir. Et oui, on ne sait pas quand ça va arriver. Et là, on est dans l'attente du troisième jour. Et parfois, l'attente dans nos vies, c'est des semaines, c'est des mois, c'est des années. Entre le moment où Jésus semble absent, qui ne répond pas, qui n'intervient pas, et celui où il intervient, où il apparaît, il peut se passer bien du temps. Et dans ce moment-là, on peut se sentir abandonné. Est-ce que vous dites, moi, dans ma vie personnelle, on dirait que ce n'est pas arrangé avec le gars des vues, ça ne se passe pas comme ça. Pour moi, ça ne marche pas. Je suis celui à qui Dieu ne répond pas. Jésus, il ne fait pas pour moi le miracle que j'attends tant. Il n'est pas en train d'intervenir. Et notre cœur, si on veut être honnête, notre cœur se sent abandonné. Notre cœur se sent délaissé et trahi par Jésus. Mais un bon chrétien, est-ce qu'il dit ça dans sa bouche? Écoute, mon frère, réunion de prière mercredi. Écoute, mon frère, je veux te dire que me sens abandonné puis trahi par Jésus. Ben, voyons donc, tu sais que ce n'est pas vrai. On ne veut jamais dire ça à voix haute, Jésus m'abandonne. Et on sait que bibliquement, c'est vrai que ce n'est pas vrai. Jésus est avec nous. Il se soucie de nous. Il est près de ceux qu'il invoque. Et on sait également que Jésus ne fait pas de favoritisme, dans le sens qu'il n'y a pas ses chouchous où il dit que « Toi, tu es plus agréable à mes yeux, tu es plus important, tu es un de mes enfants préférés, puis toi, je vais répondre pour toi, puis toi, non, dès ta conversion, je ne t'ai pas aimé, puis tu vas rentrer au ciel, mais je ne me soucie pas de toi. » Non, Jésus n'est pas comme ça. Jacques 1,5, par rapport à la sagesse, il dit qu'il donne à tous simplement et sans reproche. Donc, il n'est pas en train de dire, c'est un Dieu de grâce. Il n'est pas en train de dire, toi, tu n'as pas répondu à mes critères de qualification. Dieu donne à tous. La même chose, hein, il y a un élément de justice. 1 Pierre 1,17, il juge selon l'œuvre de chacun sans favoritisme. Donc, notre Dieu est juste et il se soucie de chacun de nous. Ceci étant établi, est-ce que Jésus va agir exactement de la même manière, d'une façon identique, pareille, en même temps pour tout le monde? La réponse est quoi? Évidemment, non, ce ne sera pas tout pareil. Et on va le voir dans notre passage, on va tirer encore d'autres vérités. On veut revenir à Cléopas et frère, hein, c'était son frère dans la foi. Quand il était en proie au doute, et Jésus leur fait toute une grâce. Il a marché avec eux. C'était un counseling 1-2. Ensuite, Jésus, il a répondu, il a tout expliqué dans les Écritures. Ensuite, au moment de prendre le pain, il s'est révélé. Leur cœur, leurs yeux se sont ouverts. Et là, il est disparu. C'était une grâce incroyable. Mais Jésus va en rajouter. Hein? Il y a un verset qui dit que à celui qui a, on donnera encore, puis à celui qui n'a pas, on lui enlèvera même ce qu'il a. Bien, on dirait que Cléopas puis son frère dans la foi, eux autres, ils ont tout. Qu'est-ce qu'ils ont fait après avoir vu Jésus? Il faisait noir, il était à l'auberge, en train de manger, puis qu'est-ce qu'ils ont fait après que Jésus ait disparu? Ils ont piqué une course, un petit jogging de 11 km pour retourner à Jérusalem. Ils ont couru avec leurs sandales, puis je ne pense pas qu'ils avaient leur lampe frontale, qui fait qu'en courant, là, ils ont dû se cogner les orteils dans les pierres, là, dans les cailloux, une couple de fois. Mais je suis certain que ça ne les a pas ralentis du tout. Une fois arrivés à Jérusalem, ils sont allés rejoindre les 11 et tous ceux qui étaient avec les 11. Qu'est-ce qu'ils ont crié? Jésus est ressuscité! Et au même instant, ils assistent, pour une deuxième fois, en même temps que les apôtres, à l'apparition de Jésus. On va lire les versets 33 à 41. Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux. Et disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. » Ils racontèrent ce qui leur est arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta. Lui-même, c'est qui? C'est Jésus! Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit, mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient pas encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, « Avez-vous quelque chose à manger? » Et là, il a mangé, vous devez regarder, là, je ne suis pas un esprit, je ne suis pas une apparition. Dans ce passage-là, il était saisi de frayeur puis d'épouvante. C'est, après avoir été déçu, accablé, c'était le fond du baril, là, c'est les montagnes russes. Il était troublé, c'était trop beau. Trop d'émotions fortes. Il ne croyait pas, il était trop dans la joie, il était dans l'euphorie. Les deux disciples d'Emmaüs sont favorisés, sont choyés, gloire à Dieu. Ce n'est pas juste pour les autres. En comparaison surtout de qui n'a pas été favorisé comme ça? Pensez donc à un personnage qui n'a pas été favorisé par l'apparition de Jésus. Thomas! Thomas, il n'est pas là. Le texte dit les onze apôtres. Hein? On sait qu'il y en a un qui était décédé, qui était parti, mais sur les onze, il y en a un qui avait son titre d'apôtre, mais qui n'était pas là, Thomas. Lui, il n'est pas là et il va devoir attendre une autre semaine pour finalement voir Jésus. On va tourner rapidement en Jean 20. On voit le récit de ce qui est arrivé à Thomas en Jean 20, verset 24. Je vous le lis. Thomas, appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étaient fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains, et avance ta main et mets-la dans mon côté, ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Disciple d'Emmaüs, deux apparitions de Jésus, deux en moins de 2 heures. Thomas, zéro. Zéro avant 8 jours supplémentaires, en plus déjà des 3 jours d'attente avant sa résurrection. Dans nos vies, on peut vraiment avoir l'impression que Jésus répond de façon extraordinaire. On entend des témoignages. C'est donc beau. Il répond pour les autres, mais que nous, il ne nous répond pas. Dernièrement, j'écoutais un témoignage tellement beau, tellement grand, puis je vous fais le petit résumé. C'était un pasteur au Québec qui avait un projet d'adoption dans un pays vraiment de misère, pauvre, qui était en guerre. Et au moment d'adopter la jeune fille, le jeune enfant qui était ciblé, qui avait prié pendant des mois, des années, le haut gradé responsable a dit, « Non, il n'y aura pas d'enfant de notre pays pour ces chrétiens-là en Occident, puis pas d'adoption. » La famille du pasteur a continué à prier avec foi. Pas longtemps après, ce chef du gouvernement qui avait des enfants, un de ses enfants, malade subitement, ne sait plus quoi faire. l'amène à l'hôpital, puis il dit « Faites de quoi pour mon enfant? » Puis il était vraiment à l'agonie. L'hôpital, qu'ils l'ont reçu, ils l'ont juste pris, puis mis là, puis il a guéri instantanément, tout seul, sans qu'il ait eu à faire des soins. Cet homme-là, tellement reconnaissant, qui dit hey, « Écoutez, vous avez sauvé la vie de mon enfant. Demandez ce que vous voulez, puis je vais vous l'accorder. » Eux, sur le coup, ils ont dit « Non, premièrement, on n'a pas fait grand-chose. Il a guéri seul, puis il n'a pas vraiment. Sinon, peut-être, il y a une petite fille ici. On a beaucoup d'enfants à l'adoption, puis on avait des candidats parfaits qui auraient pu lui donner une belle vie, puis ça a été refusé. Est-ce que ce serait possible de leur accorder? » Et ça a été accordé. On voit ça, puis on dit, « Dieu, t'es grand, Dieu, t'es merveilleux, puis je suis content que t'aies répondu de cette façon-là, mais quand je regarde les enjeux de ma vie, je regarde mes combats dans la prière, il me semble que tu ne réponds pas comme ça pour moi. » Quand on voit que ça ne se passe pas comme ça pour nous, on a une question, hein? On est comme les amis de Job qui disent, « Écoute, regarde ce qui t'arrive. On va garder le silence ces jours, mais après ça, on va se poser des questions. » Donc, on se pose des questions par rapport à nous-mêmes. Et une des réponses les plus instinctives qu'on a, c'est, « Ça doit être moi le problème. Hein? J'ai pas assez de foi. J'ai pas réussi à gagner la faveur de Dieu. Hein? » Comme si Dieu répondait à nos prières, parce qu'on a tellement fait de sacrifices, puis on est un athlète de Dieu, qu'on en fait plus que les autres. Hey, si c'est ça, attelons-nous, hein? Essayez de gagner la faveur de Dieu, d'un Dieu qui nous aime comme ses enfants, qui veut nous la donner. Parfois, on peut penser qu'on n'en vaut pas la peine, même si on sait que Dieu n'est pas comme les hommes, Dieu n'est pas comme nous. Et on en vient à croire que ça ne vaut pas la peine d'insister. Hein? Si la réponse est non, puis que ça va être non, dans un an, dans 5 ans, disant, est-ce qu'on s'épuise, puis est-ce qu'on se tourmente à prier, puis Jésus ne répondra pas. Aussi bien d'être raisonnable, d'arrêter d'y croire pour ne pas se couvrir de ridicule. Bien des fois, il faut être patient. Faut accepter de vivre comme Thomas l'a vécu, ce tourment de la foi dans le doute, avec ce refus de croire avant que plus tard Jésus ne réponde. Parfois, il faut attendre le troisième jour. Parfois, il faut attendre une semaine de plus. Il faut savoir attendre le plan, le temps de Dieu. Il y a une place dans la prière pour exprimer. Exprimer à notre Dieu qu'on se sent abandonné, que notre cœur est découragé et déçu. Les disciples d'Emmaüs, ils ont dit, on espérait. Il était attristé, il était accablé. On espérait que ce soit lui, mais lui, Jésus, on ne l'a pas vu. Et se permettre d'en prendre conscience et de l'exprimer dans la prière nous permet de s'en sortir. Ça nous permet d'aller de l'avant, puis de passer du doute à la foi. Je le répète, se permettre d'en prendre conscience puis de l'exprimer, ça nous permet de ne pas rester pogné avec ça. Ça nous permet d'aller de l'avant puis de vraiment croire. Thomas a vécu toutes sortes d'émotions, hein? Quand on lui a dit, dans le passage qu'on a lu, que Jésus est venu, puis tu n'étais pas là, puis non, tu as le choix à croire, tu ne l'as pas vu, mais nous autres, on te le dit. Hey, Thomas, il a réagi. J'aurais aimé entendre le son de sa voix. J'aurais aimé voir l'expression de son visage. Je pense qu'il y avait un peu de colère. Il y avait un peu de... Pourquoi Jésus m'a fait ça? Pourquoi c'est à moi que Jésus ne se présente pas? Il pouvait penser que Jésus l'a trompé, il est troublé. On joue avec lui, on le manipule, on le tourmente. Puis là, il explose. Hein? Tant que je n'aurai pas mis mon doigt dans sa main, je ne croirai pas. Mais Jésus a répondu aussi d'une façon personnelle, d'une façon douce, sans reproche, plus tard, où il s'est adressé à lui. Et c'est comme ça pour la majorité d'entre nous. La foi est éprouvante. Notre cœur aussi est lent à croire. C'est dur pour le cœur. Exercer la foi nous vire à l'envers. Ça nous fait vivre et ressentir des choses qu'on ne voudrait pas passer au travers. Il y a les Cléopâtres de ce monde, hein, à qui Jésus répond rapidement avec gloire. Et si vous êtes un de ceux-là, parce qu'il y en a, hein, moi j'entends des témoignages depuis le début de ma vie chrétienne, puis je me dis, waouh! Seigneur, je suis pasteur, moi tu pourrais faire des choses comme ça dans ma vie, j'en ai pas vu beaucoup. Il y a des gens à qui Jésus répond puis manifeste sa gloire. Et si vous êtes un de ceux-là, ici dans la salle, j'ai deux conseils à vous donner. Premier, rendez gloire à Dieu. Rendez gloire à Jésus et faites preuve d'humilité. Ce n'est pas parce que vous êtes meilleur, voire plus spirituel que les autres. C'est la grâce de Dieu. Et soyez capable de dire aux autres, c'est la grâce de Dieu, j'ai aucun mérite dans ça. Faites aussi preuve de compassion envers vos frères et sœurs qui souffrent dans l'attente. C'est tellement triste d'entendre des remarques de Cléopâtre, de gens que Dieu répond là. Moi, je l'ai demandé à Jésus, en croyant vraiment, puis il a répondu tout de suite. Hey, on n'a pas besoin d'en dire plus. Ça met-tu tout un poids sur l'autre personne? Comme si toi, tu ne l'avais pas demandé à Dieu, comme si tu n'avais pas pleuré, supplié, lutté dans la prière. Pour illustrer que parfois, Dieu répond à certains et qu'à d'autres, on peut dire qu'il ne répond pas. Que Dieu répond d'une façon qui nous semble positive et belle et qu'à d'autres, il semble, Jésus répond, puis Jésus est toujours présent, mais il y a des fois, à nos yeux, c'est comme s'il n'a pas répondu. On va prendre deux exemples. Premier exemple, celui de Pierre en prison. En Acte 12, on va le lire, je vais vous lire ça. Acte 12, versets 7 à 10. Pierre est en prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté en disant, « Lève-toi promptement !» Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas ce que faisait l'ange était réel et s'imaginait avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Extraordinaire, une libération miraculeuse. L'intervention d'un ange, des portes qui s'ouvrent, Imaginez ce que vivait Pierre. Est-ce que Pierre, quand il était en prison, est-ce qu'il connaissait la fin de l'histoire? Non, mais Jésus avait émis un peu une prophétie ou avait dit des choses sur la suite de sa vie. Qu'est-ce que Jésus lui avait dit? « Toi, bientôt, plus tard, il va t'arriver quelque chose. Qu'est-ce qui va t'arriver? » On va lier tes mains, puis on va t'amener où? Là où tu ne voudras pas aller. Et le passage dans Jean nous dit qu'il parlait de sa mort. Et là, Pierre en prison, dans la prière, et on ne connaissait pas son cœur, peut-être qu'il y avait un total abandon en disant, « Seigneur, si c'est maintenant que je meurs, j'ai été lié, je t'ai amené où je ne veux pas, puis s'il faut que je meurs, mais... » Jésus a répondu avec grandeur et gloire aux prières de Pierre et les disciples, verset 5, que toute l'Église priait. Mais juste avant, dans le chapitre 12, qu'est-ce qui est arrivé? Si on lit les versets 2 et 3, que verset 1, Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église, et il fit mourir par l'épée, Jacques, frère de Jean, voyait que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'est qui ce Jacques-là pour que Jésus n'en fasse pas plus d'égards puis qu'il laisse mourir de même? C'est qui ce Jacques-là? C'est le frère de Jean. Vous savez, le cercle intime de Jésus pour la transfiguration à Gethsémané, ces trois qu'il voulait avoir là, quand il avait vraiment besoin de support. Ils s'appelaient comment, ces trois-là? Pierre, Jean et Jacques. Bien, c'est ce Jacques-là. Ce Jacques, juste avant Pierre, est allé en prison et il est mort. Pourquoi? On ne sait pas. Ce qu'on sait, par exemple, c'est que Jésus aimait Jacques autant qu'il aimait Pierre. Est-ce que Jésus a été là pour Jacques? Oui, mais d'une façon différente. On a la même situation dans le livre de Daniel, les trois amis de Daniel qui étaient menacé de mort, menacé d'être jeté dans la fournaise ardente. Voici ce qu'ils ont dit à Nebuchadnezzar, qui lui disait, « Vous m'adorez, vous adorez la statue, ou vous mourrez. » Ils ont dit, « Voici, notre Dieu que nous servons peut, on n'a pas de garantie, c'est Dieu qui fait ce qu'il veut, peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main au roi. On a confiance qu'il va le faire. Sinon, on accepte. Sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux. » Quelle grande leçon pour nous. Quelle grande leçon pour nous qui ne connaissons pas la fin de l'histoire. Dieu peut le faire ou non. Mais l'amour de Dieu pour nous ne change pas. C'est biblique et c'est réaliste de constater que parfois Jésus répond comme on le souhaite. On a un Dieu qui est encore à l'œuvre, qui fait des choses. Mais parfois, les choses ne se passent pas comme on le souhaite. Ça se passe d'une autre façon. Le scénario de nos vies est écrit par Jésus et non par Walt Disney. D'accord? Donc, on ne sait pas ce qui va arriver. On ne connaît pas la fin de l'histoire, mais Dieu, lui, il la connaît. Dieu connaît nos jours. Dieu connaît le chemin de notre vie. Il sait le but qu'il veut accomplir à travers ce qu'on va vivre dans notre vie. en prenant tout ça et en l'appliquant dans notre vie, qu'est-ce que vous vivez? Dans quelle situation êtes-vous présentement? On peut penser à ce qui est le plus proche de nous pour ceux qui sont mariés avec un conjoint qui est dans la foi ou non, un conjoint avec qui tu vis des temps difficiles. Je me souviendrai toujours d'une femme de pasteur qui disait que, « Hey, Seigneur, je ne me suis pas marié pour ça. » Quand je voyais le mariage avec l'idée que Jésus était au centre puis que tu transformais nos vies puis qu'on allait rayonner de l'amour de Dieu en... Qu'est-ce que vous vivez dans votre couple? Gloire à Dieu pour ceux que ça va bien puis qui sont bénis. Mais il y en a plusieurs qui sont au milieu du tourment. Et que sincèrement, vous pouvez vous dire, Jésus, pourquoi tu ne fais rien? C'est plus que le troisième jour, c'est plus qu'une semaine. Tout est fini, tout est tombé en morceaux, c'est juste un feu qui a ravagé puis il reste juste des cendres. Comment on peut se sentir? Brisé, abandonné. C'est quand la prochaine fois que vous allez sauter dans le vide pour faire confiance à Jésus? Jésus, quand c'était le plus important pour moi, ce qui avait le plus de valeur, ça s'est effondré, puis j'ai eu beau prier, puis tu n'as pas répondu. On a besoin absolument d'amener notre cœur à Jésus. On a besoin de le rencontrer sur le chemin d'Emmaüs, puis de dire, Jésus, écoute-moi. Jésus va dire, de quoi vous parlez, de quoi tu parles, de quoi tu veux me parler? Ben Jésus, écoute-moi là. J'espérais. Mais là, tout est fini, tout est détruit. Jésus veut répondre. Jésus veut prendre soin de notre cœur. Il veut se révéler à nous pour qu'on puisse encore lui faire confiance, pour guérir notre cœur. C'est la même chose pour nos enfants. Comme chrétiens, comme parents chrétiens, on fait vraiment de notre mieux. On a des grandes attentes. Et il y a des moments où tout semble aller bien. Nos enfants sont sur la bonne traque, puis ça avance, le wagon se dirige dans la bonne direction et on peut espérer le meilleur. Tout à coup, il y a un crash, hein, ça déraille. Et le troisième jour de la réponse ne vient toujours pas, mais les années passent et notre cœur est troublé, puis on ne veut plus espérer, on ne veut plus se tourmenter. À chaque fois qu'on vient devant Jésus pour prier, ça augmente la douleur de la déception. Ça s'applique à tous les sujets. Peut-être face à l'œuvre de Dieu, peut-être que pour l'œuvre du Seigneur, que ce soit ici à l'Église ou ailleurs, que vous aviez des grands idéaux, vous voyez ce que Jésus voulait accomplir. Et vous vous êtes donné cœur et âme, autant dans la prière, autant dans votre service. Et là, il peut y avoir une déception. Un vide de dire, Seigneur, à quoi bon tout ce que j'ai fait? Ben non, Seigneur, on ne pense pas de ça. Ça ne me dérange pas, puis tu es là, puis on continue. Pour certains, ça va. Mais pour d'autres, ne pas faire face à la douleur de la déception fait que vous ne ferez plus confiance à Jésus à l'avenir. Peu importe votre vécu personnel, vous êtes assis là, peut-être vous dites, moi, ce n'est pas ces trois exemples-là. Richard, laisse-moi te dire que le mien, c'est. Dites-le au Seigneur. Venez devant Jésus et dites, Seigneur, moi, ce n'est pas... Mon couple, ce n'est pas mes enfants, ce n'est pas l'œuvre de Dieu, ça peut être la maladie. peut être des problèmes personnels, financiers, des drames qui sont arrivés dans votre vie que vous dites, Jésus, c'est quand le troisième jour que tu vas me sortir de cela? Les circonstances de la vie ne sont pas toujours selon nos aspirations. Ce qu'on attendait de beau et de grand de la part du Seigneur ne se réalise pas toujours. Et on peut vivre toutes sortes d'émotions. Et ces émotions-là font que notre cœur peut décrocher. Mais Jésus est là. Jésus voit votre détresse, votre tristesse, votre déception. Un chant de Richard Toupin dit, « Quand on ne sait pas dire ce qui nous a fait mal, on se condamne au pire à le garder pour soi. » Profond. Quand on n'est pas capable de dire à Dieu ce qui nous a fait mal, ce qui nous a déçus, comment on se sent abandonné par Dieu. On pensait que Dieu allait plus intervenir, plus être présent. On croit un grand Dieu qui fait des miracles. Si on ne sait pas le dire, ça va rester là, puis ça va être un boulet à nos pieds. Je vous invite à fermer vos yeux, à venir dans la prière. On ne veut pas rien faire avec ce qu'on a entendu. Ouvrez votre cœur à Jésus dans la prière. Dites à Jésus, « Jésus, mon cœur souffre. Jésus, c'est comme si tu m'as laissé tomber. Je me sens abandonné par toi. Je suis blessé. Puis je sens que je ne veux plus, puis que je ne peux plus te faire totalement confiance à l'avenir. Ça fait trop mal. » Dites-lui à Jésus, dites-lui dans vos mots. Demandez à Jésus de venir vous visiter. Seigneur Jésus, tu as pris la peine d'aller voir, de rencontrer les deux disciples d'Emmaüs qui t'ont dit qu'ils étaient attristés, qu'ils étaient déçus, qui pensaient que Jésus, c'était lui, mais lui, on ne l'a pas vu, puis il est trop tard, le troisième jour est passé. Demandez à Jésus, « Jésus, viens me rencontrer. Viens toucher mon cœur. Jésus, révèle-toi à moi. Jésus, tu as disparu devant les yeux de ces deux frères et leur cœur a été transporté de joie et d'allégresse. Leur cœur débordait. Leur cœur était comblé, rassuré. Tu as répondu. Seigneur Jésus, on te demande de répondre. Réponds. Dites-lui, Jésus, j'attends ta réponse. J'attends le troisième jour pour que tu me rencontres. Jésus, je suis prêt à attendre une semaine de plus comme Thomas pour que tu m'apparaisses, pour que tu mettes ta main sur moi, pour que je puisse mettre mon doigt dans la paume de ta main. Seigneur Jésus, on veut te demander de nous donner la force, le courage, la persévérance. Accepter de souffrir dans notre cœur. Jésus, on veut dire qu'on veut accepter les choses décevantes que tu permets. les choses qu'on n'aurait pas voulu vivre. Mais on sait que tu as un plan pour nos vies qui contribue à ta gloire. Jésus, merci pour ta présence. Merci pour ta bienveillance. On ne veut pas en douter. Merci, Jésus, pour ton amour. Gloire à toi, Père. Amen.
Ce message vous a fait du bien? Vous en voulez plus? L'Église Grâce et Vérité vous offre un site web sur lequel vous trouverez des messages en audio et vidéo et bien plus. Merci de nous honorer en les partageant sur les médias sociaux. Vous pouvez aussi laisser vos commentaires sur notre page Facebook ainsi que sur notre site web au www.graceetverite.org.